Bonjour à tous. Donc nous allons prendre nos Bibles en Ézéchiel, chapitre 36. Et donc nous allons lire les versets 16 à 38. Donc Ézéchiel, chapitre 36, et les versets 16 à 38. Donc Ézéchiel, chapitre 36, verset 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Verset 20. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, « C'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. » Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées, la terre dévastée, sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes. Pareil aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Ils sauront que je suis l'Éternel. Donc ce texte, il est prononcé par Ézéchiel alors que les Juifs sont en captivité à Babylone. Ézéchiel fait partie donc de la première vague de déportation de Juda vers Babylone au tout début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et il a prophétisé sur la chute de Jérusalem aux Israélites qui étaient en captivité à Babylone avant cette chute. Donc sur le plan historique et prophétique, ce texte décrit ce qui est arrivé au peuple d'Israël au temps de l'Ancien Testament. Donc tout d'abord, dans les versets 17 à 20, il décrit les péchés qu'ils ont commis étant dans la terre d'Israël et le jugement de Dieu que ces péchés a appelé sur eux. Puis ensuite, des versets 21 à 38, c'est une prophétie de restauration du peuple d'Israël par Dieu. Donc sur le plan historique, cette prophétie, elle s'est réalisée, puisque après 70 ans de captivité, le peuple d'Israël a retrouvé la liberté sous le règne de l'empereur perse, Cyrus. Ils ont pu retourner en Israël, ils ont reconstruit le temple et les murailles de Jérusalem, comme cela est décrit dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Et certains chrétiens voient également dans ces lignes même une prophétie future, encore à venir pour le peuple d'Israël, et c'est aussi tout à fait possible. Mais ce que j'aimerais que nous regardions aujourd'hui, c'est l'enseignement de ce texte pour nous. C'est comment ce texte nous concerne. Et s'il est indéniable que ce texte parle en premier de la restauration de la nation d'Israël, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le futur, il est aussi ce qu'on appelle un type, c'est-à-dire une préfiguration, de notre propre restauration. En fait, ce texte est un texte clé pour ce qu'on appelle la doctrine de la nouvelle naissance, qui est étroitement liée d'ailleurs à ce que nous venons de faire avec donc ces deux baptêmes. Et même plus largement, ce texte, on le verra, est aussi une magnifique présentation de l'Évangile dans de nombreux aspects. Alors, il y a plusieurs passages très proches hein, de ce texte dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de Jérémie. Il y a notamment, vous pourrez voir à votre loisir, dans Ézéchiel 11, dans Jérémie 33, dans Jérémie 31. Et en particulier, le verset 33 de Jérémie 31, il est cité directement dans le Nouveau Testament en hébreu 8-10. Donc, on va regarder hébreu 8-10, donc si vous voulez le tourner dans vos Bibles peut-être, en gardant une main dans Ézéchiel 36. Et on va comparer hébreu 8-10 avec les versets 26 à 28 de notre texte, et vous allez voir comment ils sont proches. Donc Hébreux 8, 10, Hébreux 8, chapitre 8, verset 10. Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël en ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les graverai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je vais le relire parce que vous n'étiez peut-être pas tous arrivés. Donc Hébreux 8, 10. « Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les graverai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et maintenant, si vous regardez les versets 26 à 28 de Ézéchiel 36, vous allez voir combien c'est similaire. En quelque sorte, Hébreux 8, 10 est une sorte de résumé de ces trois versets. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc, vous voyez en fait que on a quatre thèmes qui sont dans les versets 26 à 28 du chapitre 36. L'esprit, le cœur, la loi de Dieu qui est écrite, et enfin le fait que le Seigneur sera leur Dieu et qu'ils seront son peuple. Et ces quatre thèmes, on les retrouve directement dans Hébreux 8, 10. Donc on peut dire en quelque sorte que le texte que nous étudions aujourd'hui, il est, via Hébreux 8, 10, il est cité dans le Nouveau Testament, ce qui confirme son application aussi aux chrétiens du Nouveau Testament et pas seulement aux Israélites de l'Ancien Testament. Donc j'ai dit que ce texte est un texte clé pour la doctrine de la nouvelle naissance. La doctrine de la nouvelle naissance. Et en particulier, on le verra après, les versets 26 et 27. Et on ne peut trop insister sur cette doctrine de la nouvelle naissance. Et encore une fois, nous venons en quelque sorte de la célébrer avec ces baptêmes. Elle est centrale dans la foi évangélique. Aux États-Unis, les évangéliques sont souvent appelés des born again Christians. Donc des chrétiens nés de nouveau. Et cela les différencie des chrétiens qui sont, par exemple, des personnes qui portent le nom de chrétien dans les églises catholiques, dans les églises orthodoxes ou les églises protestantes qu'on appelle libérales, qui ont le plus souvent abandonné les fondamentaux de la loi, de la foi évangélique. Et en fait, dans un certain sens, chrétien né de nouveau, c'est un peu une répétition, comme on dit un pléonasme, car un véritable chrétien est par définition né de nouveau. Donc on regardera cette doctrine un peu plus en détail, mais j'ai aussi dit de façon plus large qu'en fait ce texte est une magnifique exposition de l'Évangile sous de nombreux aspects, pas seulement la nouvelle naissance. Et donc, en particulier, j'ai relevé en fait sept parties, sept thèmes. Tout d'abord le péché de l'homme, qui est dans les versets 17 à 20. Ensuite, dans les versets 21 à 23, ce qui motive Dieu à nous sauver de nos péchés, qui est l'honneur de son nom. Ensuite, le verset 25 parle de l'expiation des péchés. Les versets 26 et 27 parlent de la nouvelle naissance. Le verset 24, puis 28 parle du peuple de Dieu. Les versets 29 à 30, puis 33 jusqu'à la fin du chapitre parlent des bénédictions du salut. Et enfin, les versets 31 et 32 parlent du repentir. Donc on a sept thèmes qui vont être les sept parties de mon message. Le péché, premièrement. Deuxièmement, l'honneur du nom de Dieu. Troisièmement, l'expiation. Quatrièmement, la nouvelle naissance. Cinquièmement, le peuple de Dieu. Sixièmement, les bénédictions du salut. Et septièmement, le repentir. Donc, regardons d'abord le thème du péché. Verset 17, « Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. » Donc Israël avait été béni par Dieu. Dieu les avait libérés de l'esclavage en Égypte. Il les avait installés dans la terre de Canaan. Dans le livre du Deutéronome, il leur avait promis beaucoup de bénédictions s'ils suivaient ses commandements et des malédictions s'ils les rejetaient. Et en fait, l'histoire du peuple d'Israël, c'est une suite de rébellions contre Dieu depuis quasiment le début, depuis le désert du Sinaï jusqu'à la chute de Jérusalem. Et c'est aussi une suite de manifestations répétées de la grâce de Dieu malgré la rébellion d'Israël, notamment par l'attribution de bons rois, comme le roi David, ou aussi comme les rois Ézéchias et Josias, et aussi par l'envoi de nombreux prophètes pour les mettre en garde et pour les exhorter à revenir à l'Éternel. Mais rien n'y a fait. Rien n'y a fait. Israël et Juda se sont enfoncés de plus en plus dans le péché. Ils ont copié l'iniquité des nations voisines. Les livres historiques et prophétiques nous enseignent que leur péché avait atteint des niveaux élevés et même terrifiants. Ils étaient caractérisés par des idolâtries grossières et cruelles où ils sacrifiaient leurs enfants en sacrifice. Ils étaient caractérisés par l'immoralité sexuelle, par la soif des richesses, l'oppression des plus pauvres. Et l'Éternel était révolté par cette conduite. Il la compare à cette image forte de la souillure d'une femme pendant son impureté. Le péché est en horreur à l'Éternel et il provoque son dégoût. Notre texte ici dit donc ils ont souillé le pays. Ils habitaient le pays, ils l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Et ainsi s'accomplit pour le peuple d'Israël ce contre quoi Dieu les avait mis en garde dans le livre du Lévitique, lorsqu'il leur avait donné sa loi. Et je lis pour vous Lévitique 18, versets 27 à 29. Lévitique 18, versets 27 à 29. « Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettent quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. » Et donc, vous voyez cette image qui est très forte du pays qui vomit le peuple d'Israël. Leur péché, il est monté tellement haut que la terre de Canaan elle-même en a été dégoûtée et a vomi le peuple d'Israël. Et donc, cette image qui est très forte, c'est une image du jugement de Dieu qui est décrite dans les versets 18 et 19, où Dieu dit ceci. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Et donc le peuple a été emmené en captivité, d'abord les tribus du nord vers la Syrie, un siècle plus tôt, et puis Juda, qui était emmené à Babylone en plusieurs phases à partir de 597 avant Jésus-Christ, pour aboutir à la destruction finale de la ville 10 ans plus tard. Donc ainsi, le jugement de Dieu s'est déversé sur le peuple d'Israël à cause de leur conduite et de leurs œuvres. Et frères et sœurs, qui êtes chrétiens, et aussi ceux parmi nous qui ne le sont pas, qui ne connaissent pas le Seigneur, ce texte nous rappelle la gravité du péché et de ses conséquences. Le péché, c'est une abomination devant Dieu. C'est une chose qui est immonde et repoussante. Et il aboutit inexorablement au jugement par Dieu. Ce jugement, il peut se manifester dans cette vie, comme ce fut le cas pour les Juifs, par la déportation en Babylone. Et il se manifestera à coup sûr pour tout le monde par le châtiment de l'enfer dans l'éternité. Pour tous ceux qui ne sont pas sauvés. Et ce qui était vrai pour le peuple juif, qui avait rejeté son Dieu, il est aussi pour les peuples non-juifs. C'est pas seulement le peuple juif qui est condamné à cause de ses péchés, mais, par exemple, le monde entier fut condamné au châtiment, par le châtiment du déluge, sauf Noah et sa famille. On le voit également dans le châtiment de Sodome et Gomorre, que l'épître de Jude décrit comme une préfiguration, une annonce de l'enfer. Je lis pour vous Jude 1,7. Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc ce feu qui est tombé sur Gomorre, c'est ce soufre, eh bien c'est une préfiguration du jugement de l'enfer. Et ce jugement de Dieu sur le péché des hommes, on le voit sans arrêt dans l'histoire du monde, par les guerres, les famines, les épidémies de toutes sortes. Et nous sortons de, dans notre première génération, nous avons vu la récente épidémie du Covid, mais il y a eu bien pire dans le passé. Mais nous voyons aussi cette terrible guerre en Ukraine qui ne finit pas. Tout cela, c'est le jugement de Dieu sur le péché des hommes. Mais ce cycle de péché et de jugement, il s'applique au peuple, mais il s'applique aussi à chacune des personnes présentes dans cette assemblée. Il peut être dit de chacun que chacun d'entre nous, chacune personne ici, que notre péché a été devant Dieu comme une souillure et comme une impureté. Et que Dieu déversera sa colère sur nous, soit dès cette vie, et à coup sûr dans la vie future. Ce ne sont pas des paroles agréables à entendre, beaucoup d'entre nous auraient aimé commencer cette prédication à partir du verset 25 qui traite des bénédictions de Dieu. Mais ce serait une lecture tronquée de l'évangile parce que il n'y a pas d'évangile sans la croix. Il n'y a pas de croix sans le péché des hommes. Sans le péché de chacun d'entre nous un à un. Nous voyons maintenant, ensuite, deuxième thème, le thème de l'honneur du nom de Dieu. Donc concernant Israël, il y a une chose qui a retenu l'Éternel de les détruire complètement, c'est l'honneur de son nom, et cela nous le voyons dans les versets 20 à 23. Nous allons donc les relire, les versets 20 à 23. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Donc les peuples païens savaient qu'Israël portait le nom de Dieu. Et donc le péché d'Israël rejaillissait sur l'honneur de Dieu et profanait son saint nom. Ils ont profané mon saint nom en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, dit notre texte. Et il en est de même pour nous. Il en est de même pour nous. Si les gens du monde avec qui nous vivons chaque jour au travail ou à l'école savent que nous sommes chrétiens, ils scrutent tout ce que nous faisons. En fonction du fait que nous sommes chrétiens. Et lorsque nous péchons, nous profanons le nom de notre Dieu, le nom de l'Éternel. Alors que c'est le contraire que nous devrions faire, puisque nous sommes enseignés dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 14 et 15, « Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu de la race dépravée et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. » Nous devons donc faire le contraire de ce qu'ont fait les Juifs. Et nous devons glorifier notre Seigneur par notre attitude. Il y a donc le péché d'Israël qui rejaillissait sur l'honneur de Dieu, mais également la destruction d'Israël aurait rejailli en déshonneur pour Dieu. C'est l'argument en fait que Moïse utilise avec l'Éternel. En Exode 32:12, quand Dieu veut détruire le peuple à cause de son péché, Moïse dit « Pourquoi l'Égyptien dirait-il, il les a fait sortir pour leur malheur, pour les tuer dans les montagnes et pour les consommer de dessus la terre ?» Donc cela aurait été une preuve de l'échec de Dieu. Et donc Dieu va restaurer Israël uniquement pour l'honneur de son nom. Je sanctifierai mon grand nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel. » Verset 23. Si ces paroles étaient prononcées par un homme, nous trouverions une telle phrase remplie d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Est-ce que nous sommes bien clairs qu'il n'y a pas d'objectif plus légitime et plus parfait que celui de glorifier Dieu et d'élever son saint nom? Quel est le but principal de l'homme? Vous l'avez appris dans le catéchisme. Glorifier Dieu et prendre plaisir en lui. Prendre plaisir en lui. Glorifier Dieu, donc le but principal de l'homme, c'est glorifier Dieu. C'est une chose que nous avons du mal à accepter, probablement, de glorifier Dieu, que Dieu ainsi cherche sa propre gloire. C'est probablement à cause de notre propre orgueil. Mais pourtant, le fait de glorifier Dieu est un thème omniprésent dans la parole de Dieu, et je cite pour vous deux versets du psaume 148. « Roi de la terre et tous les peuples, princes et juges de la terre, jeunes hommes et vous aussi, vierges, vieillards avec les enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel. » Car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Alors, nous voyons donc que Dieu sauve son peuple pour l'amour de son nom, pour sa propre gloire. Mais quelqu'un dira, mais je croyais que c'était par amour pour son peuple que Dieu l'a sauvé. Et en effet, c'est aussi par amour, nous lisons en Deutéronome 7, verset 7, ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous étiez le plus petit des peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il a gardé le serment qu'il a fait à vos pères, et c'est parce qu'il a gardé le serment qu'il a fait à vos pères que l'Éternel vous a retiré à main forte et qu'il t'a racheté de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc, l'amour et la gloire de Dieu ne sont certainement pas incompatibles. En fait, ils vont ensemble. Lorsque Moïse demande à Dieu dans le livre d'Exode, en 33, 18, 19, il lui dit « Montre-moi ta gloire ». Comment Dieu lui répond-il? Il lui répond un chapitre plus loin en lui disant, en déclarant que Dieu est miséricordieux, compatissant, qui garde son amour jusqu'à 1000 générations. Donc l'amour de Dieu et la gloire de Dieu vont ensemble. Mais donc, ce que nous voulons retenir de ce passage d'Ézéchiel, comme celui du Deutéronome, c'est que Dieu ne nous sauve pas parce qu'il y a quelque chose en nous qui le mérite. Il nous sauve, au contraire, bien qu'il n'ait rien en nous qui le mérite. Il nous sauve par amour pour nous, et il nous sauve pour l'amour de son nom. Psaume 25, 10. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, tu me pardonneras mon iniquité car elle est grande. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, tu me pardonneras mon iniquité car elle est grande. Et cela, au passage, devrait être un grand inconfort pour nous, de savoir que Dieu ne nous sauve pas parce qu'il y a quelque chose en nous qu'il mérite, mais il le sauve parce qu'il l'a décidé, pour l'amour de son nom et par amour pour nous. Troisièmement, donc là nous allons regarder plus en détail les différents aspects du salut, nous commençons par l'expiation. L'expiation des péchés. On pourrait dire la purification des péchés. Verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Alors ce passage, il nous parle d'être purifié par une eau pure, donc c'était une pratique qui est prescrite à de nombreux endroits dans la loi juive, donc dans Exode, dans le Lévitique, les prêtres, comme Aaron et ses fils, devaient être purifiés par de l'eau, ils devaient être lavés avec de l'eau avant leur service, mais c'est une image, car la seule chose qui nous purifie, c'est le sang de Christ. La seule chose qui nous purifie, c'est le sang de Christ. Quelques versets pour nous le rappeler, 1 Jean 1, 7, le sang de son fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Hébreux 9, 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et encore Tite 2, 13 et 14, notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné soi-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier. Nous sommes des pécheurs répugnants pour Dieu. Nous sommes des pécheurs répugnants. Et il ne peut avoir de relation avec Dieu s'il n'y a pas de purification pleine et entière de nos souillures. Et cela nous est octroyé par la croix de Christ, qui est le fondement de notre salut. Et vous remarquerez que dans cette exposition que fait Ézéchiel de l'Évangile, il commence par la croix, par la purification de nos péchés. Et remarquez également que cette purification, ce n'est pas une chose que nous faisons, mais c'est une chose qui nous est faite. Le Seigneur dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je purifierai toutes vos souillures. » Donc c'est Dieu qui nous purifie et ce n'est pas nous qui nous purifions nous-mêmes. Quatrièmement, maintenant nous allons regarder la nouvelle naissance. Donc le salut, en fait, il ne se limite pas à la purification des péchés. Ça pourrait être une... On a souvent trop tendance à dire « Bon, ben, le salut, c'est le pardon des péchés. » Évidemment, le salut, ça n'est pas moins que le pardon des péchés. Mais il y a plus que le pardon des péchés. Ça va beaucoup plus loin. L'œuvre de Christ va beaucoup plus loin. En fait, elle s'étend à ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et nous le découvrons dans les versets 26 et 27. 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc dans notre culture, le cœur est souvent vu en fait comme le siège des émotions. Hein, on dit que quelqu'un est sans cœur, ça veut dire qu'il est sans compassion, il n'a pas d'émotion pour les autres. En fait, dans la Bible, le cœur a un sens plus large. Le cœur, c'est le siège de la personnalité et le siège du caractère d'une personne. Et une personne dont le cœur est comme de la pierre, c'est une personne, en fait, qui est insensible aux choses spirituelles. Les choses spirituelles ne peuvent pénétrer dans son cœur. Il y a comme une carapace dure qui l'en empêche. Il est comparable, vous savez, au sol dur du chemin dans la parabole du semeur. Le grain tombe dessus, il rebondit, la graine ne peut pénétrer, finalement elle est mangée par les oiseaux. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de partager l'évangile avec une personne qui n'est pas régénérée, elle vous écoute poliment, mais il ne se passe rien. Ses yeux restent impassibles, ce que vous lui racontez glisse sur elle comme de l'eau sur une toile cirée, son cœur est de pierre. Et cela même peut se produire avec des personnes très religieuses. En fait, c'est ce que Paul dit des Juifs de son temps qui lisaient l'Ancien Testament. Et il dit en 2 Corinthiens 3, 14 et 15, mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent. Et verset 15, et ce voile demeure jusqu'à aujourd'hui sur leur cœur. Lorsqu'on leur lit Moïse, ça veut dire qu'on leur lit la parole de Dieu, mais c'est fermé pour eux. Il y a un voile, ils ne comprennent pas. C'était d'ailleurs la situation de Nicodème, qui était un brave homme parmi les pharisiens. Il appréciait Jésus, il est allé le voir de nuit, et il entame une conversation avec lui, en commençant par des paroles polies, et Jésus l'interrompt directement et va droit au but. Et il lui donne immédiatement le diagnostic de son état, et il lui dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 3, puis au verset 7, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Nous reviendrons sur cette phrase. Recevoir un cœur nouveau, comme le dit notre texte, et naître de nouveau, c'est la même chose. C'est la même chose. Et comme la purification des péchés, cela se trouve tout juste à l'entrée de la vie chrétienne dans les premiers instants. Et c'est le Seigneur qui le fait pour nous. C'est le Seigneur qui nous donne ce cœur nouveau. Dans cet exercice, nous sommes passifs. Il purifie nos péchés et il remplace nos cœurs de pierre par un cœur de chair. Et alors, tout change. Tout change. Le cœur de chair se met à battre avec des pulsations spirituelles. Le texte en 2 Corinthiens 3, 14 dit que le voile est ôté par Jésus-Christ. Le voile qui cachait l'Écriture est ôté par Jésus-Christ. Une vie nouvelle s'installe dans celui qui est né de nouveau. Ses centres d'intérêt sont transformés. Ce jeune chrétien commence à lire sa Bible. Il a soif de la parole, il pose des questions à tout le monde pour mieux comprendre. Il en parle tout autour de lui. Et 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On en a parlé tout à l'heure. Les baptisés en ont parlé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une complète transformation. Et en particulier, le jeune chrétien, il ressent en lui le désir de faire la volonté de Dieu. Parce que le texte nous dit que maintenant, la loi de Dieu est gravée dans son cœur. C'est ce que dit Hébreux 8, 10. Cette loi à laquelle il ne voulait pas se soumettre auparavant, maintenant, il veut la pratiquer. Et non seulement il en a le désir, mais il en a la force. En verset 27, nous lisons « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Celui qui fera en nous que nous pratiquions ces lois, c'est Dieu lui-même, car il vient habiter en nous par la personne de son Saint-Esprit. Et on peut être assuré que l'Éternel, si l'Éternel a décidé de faire une chose, il ne la fera pas à moitié. Si l'Éternel dit « Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances », il le fera. Nous pouvons penser à Philippiens 1, verset 6, qui nous dit « Car celui qui a commencé une bonne chose en vous la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Croyons fermement aux promesses du Seigneur. S'il a dit qu'il le fera, alors il le fera. Et donc on voit que devenir chrétien, c'est pas seulement être purifié de ses péchés et pardonné, ce qui est déjà énorme, mais c'est devenir une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, elle est équipée par l'Esprit de Dieu lui-même pour faire sa volonté. Et je lis pour vous un passage d'Éphésiens 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc on pourrait rester des heures sur ce thème. Il y a beaucoup d'autres passages dans la parole. Mais on va regarder aussi les autres aspects de l'Évangile qui sont mis en évidence par ce texte. Cinquième point dont je parlais, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Donc on a sauté le verset 24 tout à l'heure, et on va le regarder à nouveau en l'associant au verset 28. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Et puis verset 28, « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Donc là, le texte, il fait référence à la dispersion géographique d'Israël. Donc, ils avaient été emmenés en captivité au loin, à Babylone. Et après 70 ans de captivité, eh bien, par l'intermédiaire donc de Cyrus, qui était le roi de Perse, Dieu a rassemblé son peuple, il les a retirés de Babylone et il les a ramenés en Israël. Il a rétabli avec eux cette alliance, caractérisée par cette phrase, « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur le plan historique. Mais on note que ces versets, ou des versets similaires, d'Ézéchiel et d'Ésaïe sont cités en 2 Corinthiens 6, 16 et 17. Et ça vaudrait peut-être le coup que vous tourniez vos Bibles pour regarder ces versets. 2 Corinthiens 6, versets 16 et 17. Et je commence au milieu du verset 16. Donc 2 Corinthiens 6, verset 16, « J'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et vous en séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. » Je le relis à nouveau, « J'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et vous en séparez. » dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Donc le début de ce passage, en fait, il cite Ézéchiel 37, 27. C'est pas exactement notre texte, mais on voit que c'est proche de Ézéchiel 36, 28. En particulier cette phrase identique, « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » La deuxième partie de ces versets, ça cite Ésaïe 52, 11. Mais on voit aussi une similitude avec le verset 24. Vous avez en fait ici, dans 2 Corinthiens, vous avez « Sortez du milieu d'eux, « Séparez-vous » et au verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations ». Donc dans les deux cas, on a ce concept du peuple de Dieu qui est sorti des nations. Dans un cas, c'est l'Éternel qui leur dit de le faire, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dans l'autre cas, c'est lui qui le fait. Et on a en fait ici un des effets de l'évangile. Les chrétiens se trouvent physiquement au milieu des nations. Nous nous trouvons physiquement au milieu des païens et des incroyants. Mais spirituellement, Dieu nous en a retirés. Il met à part les chrétiens. C'est exactement le sens du mot saint. Le mot saint, S-A-I-N-T, ou le mot sanctifié, ça veut dire mettre à part. Il les appelle en dehors des nations. D'ailleurs, c'est intéressant de comprendre l'étymologie du mot église. Le mot église, c'est un mot qui vient du grec, qui est le mot ecclesia, et qui veut dire appelé en dehors. Donc nous sommes appelés en dehors. Appelés en dehors, nous sommes au milieu des nations. Là, on n'a pas cet aspect géographique qu'avait Israël, où ils ont quitté Babylone pour aller en Israël. Nous sommes au milieu des nations, mais spirituellement, nous sommes appelés en dehors des nations et en dehors des païens. Et donc cela se traduit par un comportement différent de celui des non-chrétiens, par le désir de plaire à Dieu plutôt que de marcher suivant les principes du monde. Merci frère. Donc par le désir de plaire à Dieu plutôt que de marcher suivant les principes du monde. Par le fait de ne point toucher ce qui est impur, pour reprendre les mots de 2 Corinthiens 6, 17. Ne pas toucher ce qui est impur. Est-ce que nous réfléchissons à ses conséquences dans notre vie? Ne pas toucher ce qui est impur, ne pas se laisser tenter par l'impureté. Et si nous vivons vraiment suivant les commandements du Seigneur, il y a fort à parier que ça ne se passera pas nécessairement très bien avec les païens. La parole nous le dit. Je cite par exemple l'apôtre Pierre. C'est pourquoi ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement à la dissolution. Et ils vous en blâment. 1 Pierre 4, verset 4. Donc les païens sont étonnés qu'on n'aille pas dans les mêmes voies de péché et de débauche qu'eux. Mais nous devons tenir ferme dans cette sainteté afin d'être des témoins du Seigneur. Et toujours je cite Pierre, ayant une conduite honnête parmi les gentils, c'est-à-dire les païens, ou les incroyants, afin qu'au lieu qu'ils parlent mal de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour où il les visitera à cause de vos bonnes œuvres qu'ils auront vues. Donc sixièmement, nous voulons voir les bénédictions du salut. Donc ce texte parle en abondance des bénédictions du salut, nous allons les regarder, donc c'est versets 29 et 30 et versets 33 à 38. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, je le multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Verset 33. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Un très beau passage, très poétique. Et donc ce texte, il est rempli des bénédictions du salut, donc si on résume en quelque sorte, il y a la terre qui était déserte pendant la captivité, elle est de nouveau cultivée, les récoltes sont abondantes, les villes sont reconstruites, fortifiées, habitées, la population est multipliée, et tout cela c'est l'œuvre de l'Éternel, et il est ainsi glorifié aux yeux des nations qui entourent Israël. Et donc, sur le plan historique, ben effectivement, le peuple d'Israël est revenu de captivité. Le temple a été reconstruit. La ville de Jérusalem et ses murailles ont été rebâties. La terre d'Israël était à nouveau peuplée par la nation juive, même si elle était le plus souvent sous domination étrangère. Mais pas pendant toute la période jusqu'à Christ, il y a eu quelques passages où elle était libre. Donc, comme je l'ai dit, certains chrétiens voient dans cette prophétie une annonce de bénédiction encore à venir pour la nation d'Israël, à la fin des temps, et c'est tout à fait possible. D'autres chrétiens voient plutôt ici, en Israël, une préfiguration de l'Église, Et donc dans ce texte, une prophétie de l'expansion de l'Église après la venue de Christ, et c'est aussi indéniable que l'Église a connu une croissance glorieuse après la venue de Christ, et que malgré ses hauts et ses bas, elle glorifie l'Éternel aux yeux des nations. Mais on peut aussi appliquer ce texte de façon imagée aux effets de la nouvelle naissance sur chacun d'entre nous. Avant de devenir chrétien, l'homme est comme une terre déserte. C'est d'ailleurs une image qui est utilisée par le psaume 1 et également Jérémie 17. L'homme est comme une terre déserte. Il ne porte pas de fruits. Il est comme une ville conquise dont les murailles sont rasées. Il est sous la domination de l'ennemi. On a étudié il y a quelques années le très beau livre de John Bunyan, « La guerre sainte », et il utilise cette allégorie de l'homme comme étant une ville avec des murailles. Cette ville, il l'appelle « âme humaine ». Et en fait, dans les premiers chapitres de ce livre, la ville est conquise par Satan. De même que l'homme est sous la domination de Satan jusqu'à ce qu'il soit né de nouveau. Mais quand Christ conquiert l'homme, par l'œuvre de son Saint-Esprit, une transformation s'opère. Cette terre déserte, qui produisait des ronces et des mauvaises herbes, elle produit maintenant une riche récolte. Elle est comme un jardin d'Éden, dit le texte. C'est ce que nous dit Paul en Romains 6, 20 et 22. Il dit ceci. « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Et donc alors que l'homme était le jouet de Satan, sans aucune protection contre lui, comme une ville dont les murailles sont détruites, il est maintenant équipé pour lui résister. Nous connaissons bien le fameux passage d'Éphésiens 6 qui décrit l'armure du chrétien. Et cette armure, elle nous est donnée par le Seigneur. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. La parole, très souvent, décrit Dieu comme un rempart, comme une forteresse, notre surabri. Le grand Martin Luther, qui était inspiré par le psaume 46, a écrit son célèbre cantique. C'est un rempart que notre Dieu. Et tout le cantique chante la protection de Dieu. Je rappelle le premier verset. C'est un rempart que notre Dieu. En ces jours de détresse, il nous délivre, il nous tient lieu de forteresse. Voilà donc les bénédictions de la nouvelle naissance qu'évoque ce passage. L'homme naît de nouveau, il est sous la protection toute-puissante de l'Éternel. Pour prendre les termes du psaume 34, l'ange de Dieu campe autour de lui. Il porte du fruit en abondance. Et comme dit Jésus en Jean 15, 8, c'est ainsi que le Père est glorifié. Enfin, septième et dernier point, nous voulons voir le repentir. Septième et dernier thème, lié à l'évangile qui ressort de ce passage, le repentir. Versets 31 et 32. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Les versets commencent par le mot « alors », et donc il y a un lien de cause à effet, ça veut dire qu'il y a un lien de cause à effet avec ce qui vient d'être dit auparavant. Et en fait, on note que ces deux versets viennent après une description, début description des bénédictions du salut. Donc, ce repentir, il semble surgir d'une reconnaissance du peuple pour les bienfaits de l'Éternel. Donc, le repentir surgit d'une reconnaissance du peuple pour les bienfaits de l'Éternel. Cela s'accorde bien avec Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4, vous pouvez le prendre dans vos Bibles. On va lire aussi le verset 5, Romains 2, verset 4 et 5. Romains 2, verset 4. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté ?» et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc on voit que la bonté de Dieu, on a vu les bénédictions du salut, elle pousse le peuple à la repentance. Mais le problème, c'est que les hommes, en fait, ne reconnaissent pas cette bonté. Et Paul continue ainsi au verset 5, Romains 2, verset 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation juste du jugement de Dieu. » Et de cela, nous avons un témoignage de cela tous les jours. Car tous les jours, Dieu déverse sa grâce sur le monde, en abondance. Et les hommes refusent systématiquement de le reconnaître. Ils ne voient absolument pas leur péché. Ils sont spirituellement aveugles et ne voient absolument pas les bénédictions de Dieu, mais ils se plaignent en permanence. En fait, pour qu'il y ait un véritable repentir, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Le repentir, c'est issu de la nouvelle naissance. Et là aussi, c'est quelque chose qui se manifeste immédiatement. La parole, en d'autres passages, nous dit que le repentir est un don de Dieu. Nous le voyons notamment en Actes 5, 31. C'est lui, Jésus, que Dieu a élevé à sa droite pour être le prince et le sauveur afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Donc c'est Jésus qui nous donne la repentance et la rémission des péchés. Et Jésus nous dit aussi que l'Esprit Saint convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Donc en lui-même, non régénéré, l'homme ne peut pas se repentir. Il ne voit pas ses péchés tels que Dieu les voit. Il ne se voit pas comme pécheur contre Dieu. Et il lui faut cette œuvre du Saint-Esprit pour ouvrir les yeux de son intelligence et pour qu'un repentir authentique surgisse en lui. Et encore une fois, c'est une connaissance, une conséquence de ce cœur nouveau et de cet esprit nouveau qui est implanté dans le jeune chrétien. Et l'intensité de ce repentir, elle est alors augmentée avec la prise de conscience des bénédictions dont il est l'objet de la part de Dieu. Remarquez dans ce passage l'intensité du repentir des Israélites. Les Israélites se prenaient eux-mêmes en dégoût. Ils avaient honte d'eux-mêmes et ils rougissaient. Ils se rappelaient ce qu'ils avaient fait et le voyaient comme des abominations. Et est-ce que cela peut être dit de nous ? Est-ce que cela peut être dit de nous ? Est-ce que nous avons honte de nos péchés, comme le dit le texte. Le texte nous dit « Ayez honte et rougissez de votre conduite. » Et plus haut, il dit « Vous vous prendrez vous-même en dégoût. » Est-ce que nous avons honte de nos péchés ? Est-ce que quand nous pensons à nos péchés, nous nous prenons nous-mêmes en dégoût ? Et cela devrait être amplifié quand nous prenons conscience que nous péchons contre la grâce de Dieu. Parce que les pécheurs du monde ne connaissent pas la grâce de Dieu, mais nous la connaissons. Nous connaissons cette grâce et nous continuons à pécher contre elle. Le repentir, c'est une chose qu'on fait, évidemment, au tout début de la vie chrétienne. D'ailleurs, le pasteur a posé la question tout à l'heure aux baptisés. Mais c'est aussi une chose qu'on fait tout au long de sa vie chrétienne. Puisque la première épître de Jean nous dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc c'est bien la preuve que le péché, c'est quelque chose dont on doit se repentir régulièrement. C'est pas seulement une chose dont on se repentit au début. On pêche tous les jours. Et en fait, en avançant dans la vie chrétienne, le passage nous montre qu'on découvre de nouveaux péchés que nous ignorions. L'Esprit nous fait, pour reprendre le texte, l'Esprit nous fait souvenir de notre conduite qui était mauvaise et de nos actions qui n'étaient pas bonnes. Est-ce que parfois nous nous rappelons de péchés que nous avons commis dans notre vie passée ou dans notre vie plus récente ? Et dans ce cas-là, nous devons en avoir honte et nous devons aller à notre avocat pour être lavé de nos péchés. Car il est fidèle et juste pour les pardonner si nous les confessons. Et donc, puisse le Seigneur raviver en nous, par son esprit, une telle repentance. Quelques mots de conclusion. Il y a eu un grand réveil en Angleterre et aux États-Unis au milieu du XVIIIe siècle. Et un des grands prédicateurs de ce réveil, un des grands artisans de ce réveil, c'était donc un Anglais qui était appelé George Whitefield. Et son thème favori, c'était la nouvelle naissance. Et un jour, quelqu'un lui dit « Mais pourquoi prêchez-vous toujours en disant « Il faut que vous naissiez de nouveau » Pourquoi prêchez-vous toujours en disant « il faut que vous naissiez de nouveau » ? Et il répondit « parce qu'il faut que vous naissiez de nouveau. » Parce qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Et en fait, il citait simplement Jean 3,7 que nous avons vu tout à l'heure, ce que le Seigneur dit à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, je vous pose cette question. Êtes-vous né de nouveau? Et si vous me demandez pourquoi, je vous répondrai. Parce qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Ça peut sembler un peu humoristique, mais c'est vraiment profond. Il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Comment pouvons-nous savoir si nous sommes nés de nouveau? Le texte nous donne plusieurs signes. Est-ce que la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs? L'apôtre Jean dit que si nous aimons Dieu, ses commandements ne nous sont pas pénibles. Est-ce que ses commandements nous sont pénibles? Avez-vous pour fruit la sainteté? Portez-vous, dans une certaine mesure, le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, maîtrise de soi. Est-ce que le Seigneur est votre forteresse? Est-ce qu'il est votre sûr abri? Est-ce que vous vous tournez vers lui dans les moments de détresse, dans la prière? Ou est-ce que vous vous tournez vers les solutions du monde? Est-ce que vous vous êtes repenti de vos péchés? Est-ce que vous vous repentez encore de vos péchés quand vous avez péché? Nous péchons tous les jours. Allez-vous à lui tous les jours pour lui parler de vos péchés et pour obtenir la purification et la joie d'être pardonné? Est-ce que vous vous prenez en dégoût à cause de vos péchés? Ce sont là des signes de la nouvelle naissance. Il y en a certainement bien d'autres. Il y a certainement parmi nous beaucoup de chrétiens authentiques, mais qui sont anxieux, inquiétés par ces questions, parce qu'ils se disent « non, je fais rien de tout ça bien ». Mais peut-être que vous portez déjà beaucoup de ces signes sans vous en rendre compte. En tout cas, si c'est votre état, allez au Seigneur dans la prière et demande-lui qu'il vous donne la paix et l'assurance par le témoignage de son esprit. Mais pour ceux parmi nous qui ne sont pas nés de nouveau, je le dis, et je le dis très sérieusement, comme George Whitefield le disait, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Ça veut dire que vous serez damné pour l'éternité. C'est une chose qu'on a le plus grand mal à imaginer. Mais ce sera terrible. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, comment faire, me direz-vous, puisque vous avez sans arrêt dit et répété que seul Dieu peut nous donner la nouvelle naissance. Ça ne vient pas de nous. C'est lui qui le fait. Eh bien, du point de vue de l'homme, la nouvelle naissance, elle se traduit tout simplement par le fait que la personne met sa foi en Jésus-Christ. La personne met sa foi en Jésus-Christ. Cette foi, c'est Dieu qui la met dans son cœur, mais c'est l'homme qui l'exerce. Vous savez, il y a cet homme qui était... Jésus était dans une synagogue, il y avait cet homme qui avait la main sèche depuis des années, il ne pouvait pas bouger son bras. Et Jésus lui a dit « Tends ta main ». Et l'homme a tendu sa main. Donc c'est l'homme qui a tendu sa main, mais c'est évidemment Jésus, c'est le Seigneur qui a travaillé en lui. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, obéissez au commandement du Seigneur et mettez votre foi en Jésus-Christ. Il y a un jour, un homme qui a demandé à l'apôtre Paul, « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» C'était un geôlier dans la ville de Philippe, en Grèce. Et l'apôtre Paul lui a répondu simplement, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, faites de même. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour la nouvelle naissance. Nous en sommes totalement indignes. Et tu nous la donnes pour l'amour de ton nom et par amour pour nous. Elle est entièrement ton œuvre. Veuille reprendre, réconforter et affermir ceux qui sont déjà nés de nouveau dans cette assemblée. Veuille attirer à toi, par ta parole, ceux qui sont encore dans les ténèbres, et leur donner cette nouvelle naissance, afin que par cela, tu sois glorifié. Amen.